Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Duval, Steve, Cynthia et Fatih. La team Afro et leurs invités vous ouvrent les portes du week-end sur Mon Paris FM.
Mon Afro Paris, c'est maintenant, maintenant.
Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de votre émission Mon Afro Paris, le rendez-vous où l'Afrique se vit, se chante, se pense et se partage au cœur de la capitale. Aujourd'hui, nous vous avons préparé une émission aussi riche que diverse avec des invités dont les talents et engagements vont faire vibrer nos ondes. L'invité musique de ce soir, il est la voix qui incarne l'énergie du reggae, la profondeur du rap et l'engagement d'une Afrique consciente. Un artiste aux multiples facettes entre musique humanitaire et poésie sociale. Mesdames et messieurs, un immense honneur pour nous d'accueillir l'incroyable et l'incontournable Kayim. Avec 30 ans de carrière, des albums à succès et un message de paix et d'espoir, il viendra nous parler de son parcours, de ses projets et surtout de son futur concert. Il sera avec nous dans pas longtemps bien sûr. Mais ce n'est pas tout, nous avons également le plaisir de recevoir un duo d'auteurs dont l'univers captivant fait dialoguer art visuel, littérature et engagement. Stéphane Blondel et Régine Louisette, artistes pluridimensionnels, pluridisciplinaires, j'allais dire, seront avec nous au téléphone pour vous parler de leur roman « Les enfants du requin », une œuvre née d'un projet visionnaire mêlant écriture, musique et création visuelle, un voyage littéraire au cœur d'une cité futuriste, la ville aux mille noms où se croisent poésie, écologie et imaginaire africain. Préparez-vous à plonger dans un monde riche, sensible et profondément humain. Et enfin, nous avons une invitée exceptionnelle, une entrepreneuse visionnaire qui redéfinit l'image de la femme battante, Madame Télia Tacite Lepasteur, fondatrice de Cléopâtre Drive Prestige, une marque qui marie bien-être et combativité. Elle nous parlera de son aventure entrepreneuriale, de sa vision, de la marque et l'impact qu'elle souhaite avoir sur notre communauté. Bonsoir, ça va ?
Bonsoir, oui, très bien.
Bienvenue dans cette émission, ça va très bien.
Ça va, et vous, et toi ?
Oui, je vais bien, merci Télia.
Quand on entend parler Cléopâtre Drive Prestige, on pense tout de suite à une marque de luxe. Pourtant, peut-être que ce n'est pas du tout le cas.
Alors, je ne dirais pas luxe, puisque dans mon domaine, luxe fait plutôt rapport avec tout ce qui est limousine et voilà. Alors que moi, ce serait plutôt du haut de gamme.
Très bien, pas de souci. En tout cas, on en parle tout à l'heure, t'inquiète pas. On parlera de tout ça tout à l'heure ensuite. Et les filles ne sont pas avec nous ce soir. J'ai le malheur d'être seul avec mon Steve.
Bonsoir Duval, bonsoir Télia, bonsoir les auditeurs.
Salut, tu vas bien ?
Bien et toi ?
La forme ?
Oui, très bien.
Super.
Très bien.
Alors, Kadim nous a rejoint. Kadim, tu t'installes, hein. Le micro il est là pour toi, t'inquiète pas du tout. Bienvenue avec nous. Hein.
Merci.
On sait qu'en ce moment, ton séjour, c'est très très speed, c'est sûr, depuis ton arrivée, ça doit être très speed.
Je pensais que ce serait un peu plus calme, mais bon. Apparemment, je dois me mettre au rythme de Paris.
Tu as l'habitude, hein. Peut-être ouais. Que tu as perdu un peu l'habitude, mais tu connais.
Non, j'étais plus les bacs du côté de Jacquesville, à la plage là-bas, j'étais tranquille. Hein. Ah, voilà, mais là, à Paris, on n'a pas le temps pour ça.
Pour actualiser la matrice.
C'est exactement ça.
On fait une mise à jour. Bon, les amis, allez, trêve de bavardage. Commençons cette émission tout de suite avec une jeune chanteuse originaire de Bangui, en République centrafricaine, formée à l'école du gospel. Elle a un univers musical qui vous fait voyager entre compas, zouk, pop et afro. Son premier projet sort seulement le 23 mai et c'est en exclusivité que je vous propose le titre « Mesdames, Messieurs » dans le titre, le clip est sorti seulement aujourd'hui. Hein. C'est une chanson qui est extraite de ce projet-là, qui s'appelle Renaissance. Elle s'appelle Pelouse. Bienvenue dans mon Afro Paris, à tout à l'heure.
Démarrez votre week-end avec la team Afro dans mon Afro Paris.
Ce que je vis tout au fond de moi. toujours gardé mon cœur d'enfant. Enfin j'ai tout compris. Donnez le meilleur de moi tous les jours. À vous aimer encore plus fort. J'ai jamais voulu vous décevoir. Ce soir, je me tiens dans tous les côtés. Sans jamais me retourner. Ce que je vis.
Suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Et oui, on est reparti dans Mon Afro Paris. C'était une belle chanson de Pelouse à retrouver bientôt. Hein. Son album sort très très bientôt. Donc vous avez écouté le titre Mesdames, Messieurs, en exclusivité dans cette émission. Et mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire qu'il est temps de présenter quelqu'un de très important. Son nom se résume en 6 lettres. 6 lettres. Alors, c'est une légende de la musique reggae en Afrique. Alors, K comme Kératine, c'est un artiste engagé qui ne se cache pas. Et peut devenir de ce fait un problème sur la peau ou dans les cheveux des politiques. Né à Trècheville, là où les mots sont brûlants et les rythmes vivants, je connais bien Trècheville en plus, là où la rue enseigne et où l'art devient arme, Kadim, c'est l'enfant du peuple devenu messager du monde. A, comme artiste aux armes de paix. Alors, il aurait pu parler en costard dans les salons de la diplomatie, mais il a choisi les beats, le micro et la rue, pour défendre les oubliés, les enfermés et les affamés. J comme justice dans la voix, générosité dans les actes, de la Croix-Rouge aux ONG. Il n'est pas que chanteur, il est bâtisseur d'espoir, ambassadeur de l'humain. Son reggae soigne, sa plume répare, son flot élève. E comme éveilleur de peuple. Ces mots résonnent en baoulé français, anglais ou espagnol avec la force d'un griot moderne et la tendresse d'un frère qui n'a jamais oublié d'où il vient. E. Encore une lettre pour dire énergie, engagement, émotion. Chaque album est un monde, chaque scène une promesse tenue. De Ngoa à Raga Africa, il tisse l'Afrique d'hier et de demain. M comme militant musical, maître de feu. 30 ans de carrière et toujours ce regard clair, ce verbe tranchant, Kadim, c'est plus qu'un nom, c'est une voix qui ne fléchit pas. C'est le reggae qui pense, le rap qui guérit, c'est le feu sacré de la musique ivoirienne. Et il est avec nous ce soir dans cette émission. Bonsoir Kadim à nouveau.
Bonsoir Somme.
C'était toi ?
Apparemment oui.
Est-ce que tu te définirais comme ça ?
Ouais, je pense que c'est moi. Il y a du Kadim dans tout ce que tu as dit. J'ai un parcours qui est tellement sinueux. Je suis passé par tellement de chemins que voilà, j'ai, on va dire, un peu de tout ce que tu as dit en moi. De l'engagement à la musique, à mon amour des lettres, à la transmission pour les plus jeunes. Je pense que c'est tout ça, moi. Voilà.
J'ai envie de te dire, après tout ce que je viens de te dire, hein, on te connaît comme un pilier du reggae africain, un artiste engagé aux multiples facettes et un poète militant qui fait vibrer les scènes depuis plus de 30 ans. Ce 3 mai, tu vas enflammer la scène mythique du New Morning à Paris. Et un événement rare pour le public français. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter ce que représente pour toi ce retour sur la scène parisienne et comment tu l'as préparé ?
Sur le show du 3 mai prochain au New Morning, on n'a qu'une seule et vraie ambition. Transformer cet écrin parisien en club de reggae abidjanais. Il n'y a pas d'autre ambition que ça. Ce samedi-là, si tu as envie de retrouver l'ambiance des shows abidjanais, des shows reggae abidjanais, viens au New Morning. Tu peux être sûr que le temps d'une soirée, on te fera voyager sans t'imposer un billet d'avion. Voilà.
C'est dit. Voilà.
Bonsoir Kajim.
Bonsoir.
Une première question pour ma part.
Oui.
Quel rôle joue la spiritualité dans ton processus de création, toi qu'on surnomme le fils de Dja?
La musique est d'abord spirituelle. Moi, je rigole toujours quand j'entends des gens, quand j'entends des artistes dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Moi, je suis de ceux qui ont la faiblesse de croire en Dieu. Parce que taper sur deux bouts de bâton et faire vibrer des foules, s'il n'y a pas Dieu dedans, c'est que voilà, t'es un magicien. Et pour moi, Dieu est au début et à la fin de tout.
C'est clair.
Parce que quand les gens... Quelquefois, c'est pas pure vantardise qu'on part à la SACEM ou dans un bureau de droit d'auteur dire qu'on est auteur de quoi que ce soit. C'est Dieu qui donne l'inspiration. Voilà.
C'est clair. Alors, je pense que c'est une question qui t'a été posée pendant longtemps, depuis 30 ans de carrière aujourd'hui. Mais pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément tous, il y en a beaucoup qui te connaissent, c'est sûr. Tu es né à Trésil, je l'ai dit, en quartier emblématique d'Abidjan. Et tu t'es promis à une carrière diplomatique. Comment le reggae est-il venu bouleverser ce parcours, ce chemin?
Moi, j'ai toujours voulu faire musique depuis que je suis tout petit. Et j'ai appartenu à mon premier groupe musical à l'âge de 11 ans. J'étais batteur et chanteur. Mais pour quelqu'un comme mon papa qui est un autodidacte, musicien, c'était pas un métier, ça. Et en plus, j'avais de très bons résultats scolaires. Moi, j'étais major de ma promo du primaire à l'université. Et donc, mes professeurs se sont pris à faire des projets pour moi. Mes parents avaient des projets pour moi. Et moi, mon projet, c'était de devenir musicien. Du coup, voilà, c'était compliqué. C'est ce qui, d'ailleurs, a fait que j'ai attendu de finir mes études universitaires avant de lancer ma carrière. Voilà.
Alors, tu célèbres plus de 30 ans de carrière.
Ouais.
Quel album représente pour toi un tournant majeur?
Oh, ça c'est une vraie colle. Mais je dirais que pour moi, l'album le plus important, c'est le premier.
Le premier?
Passer de l'idée à la matière, mm-hmm. c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois que j'ai un CD de moi dans la main. J'ai, ce jour-là, je me suis senti un peu Dieu. Mm-hmm. Voilà, je suis passé d'une idée à quelque chose de matériel. Et ça, c'était quelque chose de magique. Maintenant, après, chaque album apporte son lot de satisfaction et de déception. Voilà.
C'est clair. Tu as toujours mêlé reggae, raga, afrobeat et rythmes traditionnels africains, surtout. Hein. Comment décris-tu aujourd'hui l'identité sonore de Kajim?
On va dire quoi? C'est une sorte...
évolution peut-être?
Oui, il y a une évolution, mais bon, je fais une sorte de musique au service du développement. Je suis de ceux qui pensent que il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas réduire notre musique à sa seule fonction de distraction. Parce que depuis quelques décennies, je pense que c'est à ça qu'on assiste. La musique africaine, c'est la musique pour s'enjailler, quoi, comme s'il n'y avait pas de conscience chez nous. Alors que même les pays qui sont réputés pour être les rois de l'entertainment, comme les États-Unis, on valorise les lyricistes, on valorise les grands penseurs. Et chez nous, dans nos traditions, la musique avait la fonction d'éducation, d'élévation, avant la distraction. C'est ce qui fait que dans nos musiques traditionnelles, si tu n'as rien à dire, tu ne chantes pas. On ne chante pas pour rien dire. Moi, je viens d'un quartier populaire où tout le monde n'a pas droit à la parole. Donc, quand toi, tu as le droit au micro, tu ne peux pas prendre le micro pour ne rien dire. Tu dois prendre le micro pour parler au nom de ceux qui n'ont pas droit à la parole. Et c'est ce qui fait que, pour moi, ma musique, c'est ça. C'est une musique au service du développement et d'un Africain qui a les pieds dans la tradition et la tête dans les satellites.
Alors, tu es très actif dans les milieux associatifs et humanitaires. Et justement, d'où vient cet engagement? Mais bon, tu as en partie un peu répondu là, mais
oui.
Je te pose quand même la question.
Oui, mais je veux te dire... Bon, là, on a commencé en parlant de Dieu. Moi, je viens d'un cursus catholique. J'ai fait mission catholique garçon. J'ai été baptisé, confirmé avant de savoir ce que ça signifiait. J'ai fait scout catholique, j'ai fait cœur vaillant. Je suis sorti de là, je suis rentré dans Rasta. Mais on va dire, musicalement, il y a des thèmes qui tombaient déjà sous le coup de ces causes-là. Et donc, c'est un peu fatalement que... Tous ceux qui militent dans ces causes-là m'ont approché pour commencer à travailler, que ce soit le Comité international de la Croix-Rouge et aujourd'hui Amnesty International, dont je suis ambassadeur. Je dis, pour moi, la liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc, quand je rencontre des gens qui, eux, se battent pour cela, il devient évident qu'on unisse nos forces pour essayer voilà, de faire avancer les choses. Quoi. Voilà.
C'est naturel. Alors, en 2023, tu as célébré tes 30 ans de carrière avec l'album Rag Africa. Ouais. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur ton parcours ?
Bon, quand moi je suis de ceux qui veut qu'on retienne de moi, le jour où je ne serai plus là, que Kazim était quelqu'un qui chaque jour faisait un pas en avant. Et depuis le jour où j'ai commencé ma carrière, j'ai l'impression que chaque jour je fais un pas en avant. Pour moi, c'est l'immobilisme qui n'est pas bon. Et chaque album apporte son lot de satisfaction. Comme je le disais tout à l'heure, Rag Africa, en plus, m'a valu quelques menaces très sérieuses. Voilà. C'est quand tu te réveilles un matin avec plus de 1500 messages de menaces inbox, que des gens essaient de pénétrer par effraction chez toi, que tu as tous tes sponsors qui sont menacés. Ça te montre que tu es dans la vérité, parce que si tu étais dans le faux, ce genre de choses n'arriverait pas. Mais ça te montre aussi que tu as fait un choix et qu'il faut aller au bout.
Voilà. Est-ce que ça te ralentit sur tes prochains projets ?
Non, ça ne peut pas me ralentir. Moi, dans l'intro de Gardien du Feu, je disais « Ils ont tenté de me bâillonner, m'empêcher de m'exprimer. Ils m'ont juste rendu enragé et un peu plus affûté. » C'est ça.
Ouais.
Chaque fois qu'on essaie de me stopper, je suis plus engagé que jamais, parce que je ne fais pas mes œuvres contre des individus. Je fais des œuvres qui dénoncent des situations. Je suis responsable de ce que j'écris et de ce que je chante. Je ne peux pas être responsable de ce que les gens comprennent.
Alors moi j'avais une question, mais là tu as encore répondu avant que je la pose. C'est comment arrives-tu à concilier musique et militantisme ?
Mais la musique que nous on fait doit être militante.
C'est clair.
Moi j'ai été nourri, mon âme, mon esprit ont été nourris par des artistes, des chanteurs qui étaient des militants. Le reggae que nous on a appris est un reggae militant. Le reggae ivoirien est connu pour son caractère corrosif et truculent. Maintenant, Babylone a ses chanteurs de reggae aujourd'hui. Et c'est bien pour eux. Mais le reggae que moi j'ai appris a toujours été un reggae pour défendre les plus faibles, un reggae pour défendre ceux qui sont en galère. Et le reggae qui flatte les puissants, je ne sais pas en faire. Et c'est peut-être ça le problème que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas faire un autre reggae que celui que je fais.
Et quel regard justement portes-tu sur la scène reggae actuelle, que ce soit en Côte d'Ivoire et ailleurs ?
On va dire qu'il y a deux reggae. Parce que même moi, quand je joue dans une salle européenne, je n'ai pas le même rapport avec le public que quand je joue à Abidjan. Et je le disais à certains amis, c'est facile d'être un chanteur engagé à Paris ou à Genève. Quand tu es un chanteur engagé à Abidjan, à Douala ou à Ouaga, tu sais ce que ça signifie. Et ici, parfois, tu as le sentiment que le reggae, c'est juste un prétexte pour fumer des joints. Chez nous, le reggae, c'est vraiment une arme de combat. Quand on a l'impression, même chez nous, que c'est le dernier bastion qu'ils n'ont pas encore récupéré, ils essaient. Mais c'est un des derniers bastions qu'ils n'ont pas encore récupéré. Et c'est à ce titre-là que tous ceux qui sont encore dans le militantisme, tous ceux qui sont encore dans l'engagement, n'ont pas la vie facile. Mais en même temps, moi, je suis un fan de foot et je suis de ceux qui pensent que tu ne peux pas vouloir gagner en espérant des passes de l'adversaire, tu vois. Donc, voilà,
c'est clair.
Ouais, je suis tranquille avec ça.
Il me semble que tu travailles actuellement sur un nouvel album que tu qualifies de très personnel. Hein, que peux-tu nous dire de cet album ? Est-ce qu'il y a une nouvelle direction ? Est-ce que tu continues dans le même élan ?
En fait, j'ai fait Rag Africa comme une sorte... Rag Africa, c'est l'album le plus crossover que j'ai fait, parce que c'est un album qui raconte l'histoire de notre musique qui part d'Afrique jusqu'aux Amériques. C'est ce qui fait qu'on retrouvera des sonorités compas, du hip-hop, de la drill, voilà. Mais avec le nouvel album, je reviens à un album 100% reggae, même s'il y aura deux, trois trucs un peu hip-hop. Mais je veux dire, je reviens à un album plus reggae, mais c'est un album de combat carrément. Le titre le dit, c'est Général 5 étoiles, parce que je suis un homme de terrain. Et puis là, 2025, pour moi, c'est une année trop importante pour ne pas qu'on sorte quelque chose. Quand tu regardes l'actualité mondiale, ouais, quand tu regardes ce qui se passe chez nous, il faut absolument que quelque chose soit dit, parce que notre peuple n'a jamais eu autant besoin de reggae que maintenant.
Alors là, tu es prévu justement New Morning. C'est quand la date exacte, on peut la redire ?
Le samedi 3 mai, sur le coup de 20h.
Le samedi 3 mai. Voilà. Le New Morning, que représente cette salle pour toi ?
Le New Morning, c'est en fait, c'est comme si le l'artiste que je suis doit aller cocher la case New Morning. Ça fait partie des...
Il faut passer par là.
Voilà, c'est des endroits où il faut passer, c'est des endroits où il faut aller partager la vibration. Depuis plus d'une vingtaine d'années, je répète au Studio Bleu, j'ai jamais joué...
Juste à côté,
voilà,
oui.
J'ai jamais joué au New Morning. Je répète au Studio Bleu pour faire des tournées dans toute l'Europe et je ne joue pas à Paris.
C'est
là,
une salle vraiment mythique, effectivement.
Pour moi, le New Morning fait partie des institutions musicales de Paris. Et il est important qu'à un moment donné, tu coches la case et puis après, maintenant, tu cherches à voir ailleurs. Quoi.
C'est clair. Avant de te laisser partir, il y a une chanson qui me marque et je pense qu'il marque beaucoup de personnes dans ta carrière. En tout cas, il y en a tellement. Je retiens juste cette chanson-là, Les pleurs de ma ville. Oui. Je ne sais plus, c'était en 99 ou en 2000 sur lequel des albums c'était
sur Revelation Time.
Sur Revelation Time. Dans quel contexte écrit cette chanson
On parle de nos villages africains, c'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de schématiser, de montrer l'image du sous-développement, c'est la première image qu'on sort, c'est le village africain avec deux, trois enfants qui traînent, et quelques cases et tout. Et le développement, c'est une ville comme Abidjan avec des immeubles. Sauf que dans le village africain, il n'y a personne qui dort dehors, il n'y a pas d'ordures qui traînent, même les fous habitent dans des maisons. Et moi, ma question, c'est quel modèle qu'est-ce que nous on veut comme modèle de développement? C'est quoi être développé? Parce qu'on nous bassine avec des histoires. Des gens sont venus, ils ont trouvé nos parents qui vivaient d'une certaine façon. Ils ont trouvé que c'était la façon de vivre des sauvages. Et ils reviennent deux siècles plus tard, leur dire que cette façon de vivre-là est bio et qu'il faut payer pour ça. C'est chaud, quoi. Donc, à un moment donné, nous... On est en droit, peut-être que nos parents ont subi certaines choses. Nous, on doit s'interroger sur ces choses-là et voir quelle direction on veut donner à la marche de notre continent.
On te souhaite un très beau spectacle au New Morning.
Merci.
Merci d'être passé.
Merci d'être venu.
Merci à vous et merci pour cette interview.
On se sépare avec cette chanson justement, Les pleurs de ma ville. Et on se retrouve tout à l'heure, chers auditeurs. À tout de suite.
Démarrez votre week-end avec la Team Afro dans Mon Afro Paris.
Dans la nuit, tous les oiseaux entendent les pleurs de ma ville. Faut l'admixer, le bleu que n'arrive pas à cacher la couleur du ciel. Gaiement, tard dans la nuit, tous les soirs j'entends les pleurs de ma ville. Faut l'admixer, tard dans la nuit, tous les soirs j'entends les pleurs de ma ville. Gaiement, on me reproche souvent de choquer les bonnes consciences. Mais si mes propos te choquent, c'est que t'es pas une bonne conscience. Pas dire si la version vient juste faire prendre conscience que là-bas dans le ghetto les rude boys perdent patience. Je chante pour tous ces gens qui vivent dans les bas-fonds, des gens qui vivent dans les quartiers boys qu'on dit bidon, des gens à qui l'on pense lorsqu'arrivent les élections, mais qu'on oublie très vite un type au casque le pognon. Tard dans la nuit, tous les trois j'entends les pleurs de ma ville. Oh let me say, tard dans la nuit, tous les trois j'entends les pleurs de ma ville. Yeah, j'entends des pleurs, Woody m'empêche de dormir, man des pleurs. De pauvres gens en train de souffrir, boy des pleurs. Woody m'empêche de dormir, c'est des pleurs, man. Dans toutes les capitales africaines, on sent monter la haine. De toutes les bidonvilles où la pauvreté règne. Du communal des gorilles, de toute la misère humaine. Ce qui me coûte beaucoup de peine. Les villes se développent tandis que le peuple est à la traîne. Victime de cette politique inhumaine qui rejette les sociales comme on jette une mauvaise reine. Oh God, don't forget your children. Tard dans la nuit, tous les soirs j'entends les pleurs de ma ville. Oh let me say, tard dans la nuit, tous les soirs j'entends les pleurs de ma ville. Yeah man, je dis y'a
hommes à la force d'attirer leur attention. Aussi le fait que ma ville est sous pression, que nous risquons d'assister à une grosse explosion. Et rien n'est fait pour changer la situation. Garde-moi la force d'attirer leur attention. Aussi le fait que ma ville est sous pression, que nous risquons d'assister à une grosse explosion. Et rien n'est fait pour changer la situation. Car dans la nuit, tous les oignons dans les fleurs de ma ville. Dans la nuit, tous les oignons dans les fleurs de ma ville.
Mon Afro Paris, c'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur Mon Paris FM.
C'est l'heure de retrouver Steve pour son coup de cœur de ce vendredi.
Steve vous emmène dans son univers musical. Laissez-vous entraîner dans sa playlist. Le coup de cœur de Steve.
Chers auditeurs, préparez vos oreilles. Parce qu'on va parler là d'un véritable soul brother à l'anglaise. Voici l'inimitable, l'indétrônable Omar. Il est le secret le mieux gardé de la soul britannique. Un maître du groove, un architecte de la belle et grande musique. Et si tu ne le connais pas encore, c'est que tu as raté un chapitre entier de l'histoire de la soul moderne, mon ami. Né à Londres, d'origine jamaïcaine, dans une famille qui baigne dans la musique. Papa percussionniste, maman prof de musique et frère DJ. C'est dire si le talent chez les Lifehawk et son nom de famille, coule dans leurs veines. En 1990, Omar balance un ovni musical, There's Nothing Like This. Tout le monde a entendu ce morceau-là, une ballade à tomber à la renverse. Cuivre moelleux, basse qui caresse, et cette voix inimitable, veloutée, suave, directe au cœur. C'est simple. Prince lui-même a dit de lui « Il est trop fort ce gars ». J'ai mal fait je crois, hein, il parlait pas comme ça Prince. Hein. Il avait une petite voix « Il est trop fort ce gars ». Et quand le kid de Minneapolis te valide mon ami, c'est que t'es passé dans la cour des grands. Omar, il a collaboré avec du très lourd. Stevie Wonder, Erykah Badu, Angie Stone. Chaque album est une pépite d'élégance, un cocktail de jazz, funk, musique caribéenne. Et toujours avec cette voix unique. Et tu sais quoi ? Omar, il est toujours là. Omar, c'est l'antistar par excellence, une légende vivante qu'on a envie de célébrer encore et encore. Tout de suite, les amis, un extrait de son album qui n'est pas encore sorti, qui va arriver au mois de mai. Je ne connais pas encore le nom de cet album-là, mais le titre qu'on va vous diffuser tout de suite, grâce à notre Léo National, s'intitule « There's much love in the world ». Alors, enjoy les amis!
Might as well see it through.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Alors, c'était justement un très très beau coup de cœur, mon Steve.
Merci, ça t'a plu, Duval ?
Bah, cette chanson dit qu'il y a de l'amour dans le monde. En gros, c'est un cri d'espoir dans un monde qui s'entend déchirer. C'est très poétique.
Comme j'espère que ça a tué nos auditeurs, surtout.
Bah, j'espère. Il avait complètement disparu quand même de la scène. Hein.
Pas vraiment, mon ami. Hein.
C'est depuis 2017 qu'il avait sorti son dernier.
En termes d'album, oui, mais il passe assez régulièrement, même sans faire d'album, dans la salle emblématique dont on vient de parler tout à l'heure, avec notre invité, qui est le New Morning.
D'accord.
Donc il est passé il y a il y a un mois ou deux, il me semble. En fait, il était passé il y a un an et demi.
Il fait plus de scènes qu'il ne sort d'album.
Oui,
parce que le dernier album, il date de 8 ans et il revient. Il dit qu'il y a de l'amour dans le monde. Dans un monde où tout est un peu en lambeaux, mais c'est beau, c'est très très beau,
et
c'est
là,
très poétique.
Et là, un double album arrive au mois de mai. Hein.
Bah franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup, Steve.
Avec plaisir.
Là, j'ai envie de vous présenter deux personnes qui sont avec nous. Il y a des rencontres qui ne se font pas dans le bruit, mais qui déclenchent des orages créatifs. Stéphane Blondel, artiste visuel et musicien, est un semeur de forme, un sculpteur de son. Il vient des coulisses du cinéma, des décors qui prennent vie et des notes qui racontent sans parole. Régine Louisette, elle est architecte du vivant. Elle étudie les maisons comme on lit les livres, les arbres, les habitats créoles et les palais de Rajasthan, comme autant de manières de faire corps avec le monde. Leur chemin se croise en 2002, comme deux rivières qui se rejoignent au creux d'une vallée fertile. De cette confluence naît un écosystème unique, la ville aux mille noms. Un monde en germination nourri d'expositions, de voyages, de créations partagées, un terreau vivant, mouvant, qui laisse pousser à son rythme. Pendant des années, ce jardin intérieur s'épanouit au fil des saisons. En 2015, en premier court-métrage, on fait jaillir les premières fleurs allégrant, puis vient le temps du fruit mûr. Le roman, les enfants du requin poussent lentement, patiemment, comme une plante qui s'adapte au vent. Il prend racine dans leurs convictions, leurs peurs, leurs élans. Il écoute les battements du monde, capte les secousses de la planète et la tendresse des corps qui résistent. À travers cette œuvre, Stéphane et Régine ne racontent pas seulement une histoire. Ils ouvrent un paysage, un lieu de passage entre le visible et l'invisible, entre ce qui meurt et ce qui renaît. Et ils sont avec nous en direct dans cette émission. Bonsoir Stéphane et Régine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Waouh, quelle belle intro.
Mais écoutez, on n'a rien à rajouter, c'est parfait.
C'est exactement ça, votre histoire ?
C'est très, c'est très joliment dit. Hein. Franchement, wow. C'était très poétique et c'est, oui, on est tout à fait dedans. On est très proche de ce qu'on raconte, ce qu'on veut aussi. On veut susciter aussi chez les lecteurs et les...
Mais c'est très beau votre histoire, en tout cas c'est pour ça que j'ai voulu la raconter comme ça, en étant dans la nature. Vous venez tous les deux d'univers artistiques très différents, cinéma, musique, art visuel pour Stéphane, architecture et anthropologie de l'habitat pour Régine. Comment vos deux mondes se sont-ils rencontrés justement ?
Eh bien, on s'est rencontrés en 2002, donc ça commence à faire quelques années. Et à l'époque je faisais de la musique, Régine est venue un peu par hasard, à moitié par hasard, dans un endroit où on enregistrait, et à partir de là, on ne s'est plus quitté. Et on était passionnés aussi par les mêmes choses, même si on avait des terrains un peu différents au départ. Régine est quelqu'un qui a une imagination folle, et qui dessine super bien, qui fait de la musique aussi. Donc on avait quand même un terrain d'entente très large au départ. Mais c'est vrai que toute la partie architecture, moi je ne connaissais pas du tout tout ce rapport au vivant, à comment on habite le monde. Et ça, ça m'a...
C'est bien.
Ça m'a énormément inspiré à cette époque-là. Voilà.
Il y a une belle complémentarité. Là, vous parlez d'une rencontre en 2002 qui a été le point de départ de la ville aux mille noms. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer ensemble ?
Et il y a eu plusieurs petites choses. Régine, elle m'a donné un livre à l'époque qui était Texaco de Chamoiseau. Elle m'a dit, il faut absolument que tu lises ça. Alors à l'époque, elle ne l'avait pas lu. Puis elle l'a lu après. Hein. Quoi.
Exactement. Je sentais que ça allait lui parler, en fait.
Ouais. Ah ouais. Et moi, j'ai découvert l'Anville et un autre aspect du monde créole que je connaissais un peu, mais pas du tout avec cette profondeur. Et l'écriture de Chamoiseau, quand il évoquait les gens qui allaient... Enfin, il évoquait Saint-Pierre, Fort-de-France et cette ville qui était un personnage finalement qui attirait tout le monde en son sein. Et moi, ça m'a énormément inspiré, ce rapport entre le monde rural, le monde urbain, comment les gens vivent, comment ils vont vivre autrement parce que le monde change. Ouais, ça m'a saisi. Puis c'était une écriture chez Chamoiseau qui est lumineuse. Enfin, j'ai retrouvé des choses que je n'avais pas connues depuis Rimbaud avec Chamoiseau. Donc voilà, gros coup de cœur littéraire. C'était une première étincelle, en fait. Puis il y avait la notion d'Anville, de tout monde, qui est cher à Glissant et Chamoiseau. Ce monde où toutes les richesses se rencontrent et se respectent. C'est pas la mondialisation lisse qui va tout effacer. C'est vraiment le monde entier, avec toutes ses différences, sa richesse, ses spécificités, enfin voilà, toutes ces choses-là sont arrivées en bloc à ce moment-là.
Et du coup, le projet, en fait, il a commencé avec plusieurs supports différents. On faisait des expositions en peinture. Stéphane faisait de la peinture à l'époque, pas mal d'expos dans tout genre de lieux à Paris. Et moi, je faisais aussi des photos. Quand on s'est rencontrés, j'étais encore étudiante en école d'architecture à Paris. Et lors de ma fin d'études, je suis partie en workshop en Inde, à Jaipur, dans le Rajasthan. Et voilà, j'ai eu vraiment un...
C'est là que ça a été un déclencheur.
Ah oui, c'était, enfin voilà, c'est une découverte magnifique. Donc j'ai fait pas mal de photos, j'ai filmé et en fait on a étudié avec les élèves d'école d'architecture de Jaipur le mode de vivre en fait de traditionnel. Voilà, en Inde, qu'est-ce qui leur restait. Bon, voilà, c'est pas forcément de là que part le projet, mais ça a beaucoup nourri le projet. Parce que dans notre ville au Minon, en fait, on n'a pas de frontières. Hein. C'est un énorme territoire sans fin. Enfin, on va trouver les limites, hein, sûrement. Mais...
En tout cas, ça vous a inspiré ce voyage-là.
Oui, il y a des quartiers qui ressemblent aux quartiers indiens. Il y a bien sûr un village qui est le village créole. Enfin, avec des restes, on va dire, de la culture créole, parce que on est vraiment longtemps après notre ère, on est vraiment des siècles plus tard. Et on a pas mal de nos voyages et de pays et de cultures qui nous ont inspirés pour ce livre, en fait. Et tout le monde se retrouve, c'est un énorme métissage, un énorme mélange. Et même, ils communiquent plus de la même façon que nous. On communique à travers des arbres messagers, en tissant des nœuds comme ça, et on accroche aux arbres autour des puits. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui sont différentes d'aujourd'hui, mais qui pourraient tout à fait devenir comme ça, on ne sait jamais. Ouais,
c'est sûr.
Bonsoir Régine et bonsoir Stéphane. Alors, ma question à moi est la suivante. Le roman, il mêle aventure, quête initiatique et réflexion écologique. Comment avez-vous équilibré ces différents aspects pour créer une narration cohérente et engageante ?
On a pris le temps. C'est vrai que c'est pour ça que c'était long, parce que... Le premier tome a mis beaucoup de temps, je dirais presque 10 ans à être finalisé. Alors pendant ce temps, on écrivait aussi le reste, tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui viendra après. On l'a préparé, mais ouais, c'est vrai qu'il y avait un vrai équilibre à trouver et un point de vue aussi à trouver. Et c'est vrai que le point de vue des enfants, c'est ce qui nous a le plus inspiré à un moment donné. Parce que la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on grandit dans un monde qui est heurté par le changement. Nous, on vit un moment qui ressemble un peu à ça aujourd'hui dans notre vrai monde. Et
effectivement, les personnages principaux sont des enfants.
Hein. Oui, on commence avec eux et après on va voir qu'il y a d'autres générations qui s'en mêlent et qui voyagent avec eux. Donc des parents, des adultes, des rencontres créées par le hasard. Et ouais, ce qui nous intéressait, c'était ces différentes lectures et comment des gens très différents allaient percevoir les choses de manière complémentaire pour faire face à tout ça.
Le roman s'inscrit dans un monde post-catastrophe quand même, nourri par vos réflexions sur l'écologie et les excès de notre société. Quelles ont été vos principales sources d'inspiration pour cet univers, au-delà du fait qu'il y a le voyage que Régine a fait ?
Eh bien oui, c'est vrai qu'il y a eu ces voyages. Moi, il y a eu mes voyages en Égypte, en Ukraine, des choses comme ça. On voyageait un peu plus quand on avait une vingtaine d'années. Et...
Le monde qui nous entoure.
Le monde qui nous entoure, ouais.
Tous les changements qu'on observe aujourd'hui. L'eau qui s'en va. Voilà, on parle beaucoup d'eau hein, dans le roman. Et c'est vraiment un des points capitaux de notre actualité.
Oui, et la nature nous inspire énormément. Et c'est vrai qu'elle est peu respectée aujourd'hui. Elle est même abîmée de manière décomplexée depuis ces derniers mois. On avait envie d'imaginer comment le monde pouvait repartir du bon pied après tout ça. Et puis comment ces gens qui ont trouvé une manière de vivre plus harmonieuse par la force des choses allaient peut-être mieux traverser de nouveaux changements ensuite.
Donc, justement, toi Stéphane, comment ton expérience dans les arts visuels et la musique influence-t-elle ta façon d'écrire ? Peut-on voir ou entendre ce roman d'une certaine façon ?
Oui, beaucoup. La musique m'influence énormément parce que un livre, c'est une façon de marquer la parole. Et du coup, on est très attaché à l'oralité des choses, aux conteuses, aux conteurs. Et du coup, la musique, oui, elle est très forte quand j'écris. Alors des fois, je dois aussi m'en extraire, mais c'est vrai que j'entends avant de poser des choses et j'aime bien qu'il y ait une musique. Et le visuel, nous aide énormément. C'est-à-dire que avant de découvrir ce qu'on va écrire, on dessine beaucoup aussi. Des choses qui naissent par hasard dans des dessins, des visages, des situations. Donc ça, c'est plein d'allers-retours entre imaginer, écrire, dessiner. Et puis c'est vrai qu'on fait un peu de musique aussi des fois pour... Même pour creuser des personnages, il y a des morceaux qui nous viennent et on se dit « Ah mais oui, c'est ce personnage. »
C'est vrai que c'est un projet très hybride en fait. Ouais, ouais. On avait commencé à faire des expo-peintures, mais aussi on a fait un film, un court-métrage, il y a quelques années.
Avant le roman ?
Oui, c'est oui. Ça qui. Mais en fait, ce court-métrage, il est placé plutôt dans le tome 2, hein, au niveau.
Oui, c'est un chapitre du tome 2. Ouais.
Chapitre du tome 2. voilà, on cherchait un petit peu à l'époque comment on allait un petit peu raconter toutes ces histoires. Et c'est après ce court-métrage qu'on s'est dit, mais en fait, il y a tellement de choses à dire, tellement de personnages autour desquels on a réfléchi, que ça mérite d'être vraiment écrit en fait sous forme de roman. Mm-hmm. Mais au début, c'est vrai qu'on se cherchait beaucoup, on a écrit beaucoup d'épisodes, une série. Voilà, on voulait voir les choses en grand pour donner beaucoup de liberté aussi dans l'écriture.
Le livre a été écrit sur plusieurs années, vous l'avez dit, hein. Qu'est-ce qui a changé entre le début de l'écriture et aujourd'hui, dans votre vision du futur, ou même dans vos inquiétudes?
Ça s'accélère.
Ouais, ça s'accélère. Ouais. C'est vrai que quand on écrit le tome 2, on a bien avancé, là. Et malheureusement, des choses qu'on avait prévu de raconter il y a longtemps dans le tome 2 sont un peu en train d'arriver aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas forcément lesquelles, mais... Il traite beaucoup de comment surmonter la peur. Et cette peur qui divise les gens, qui va nous empêcher de faire face, qui peut aussi nous stimuler, hein, mais comment l'utiliser, la dépasser et comment collaborer. Parce que là, on est dans une situation mondiale où beaucoup de choses sont inquiétantes au niveau même politique ou naturel. Et je pense que la clé, elle va être autour de nous, avec son voisin, avec les gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées que nous. Il va falloir parler. Il va falloir pas à pas avancer, s'entraider. C'est des belles idées, hein, mais c'est plus dur dans la réalité. Mais
c'est clair. Il est évident que votre projet futur, c'est que vous êtes en train de faire le tome 2. Là, qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent de ce livre?
C'est un livre où on a voulu mettre beaucoup d'humanité. Et c'est vrai qu'on a volontairement pas voulu être dans des cases, parce qu'il y a plein de cases et c'est très pratique pour vendre des choses. Ce livre, c'est pas un produit, c'est vraiment un truc qu'on veut, avec lequel on veut apporter des clés, de l'espoir aussi. C'est pas naïf du tout, mais on a envie que les gens en ressortent avec une meilleure confiance en l'humain.
Et on a le tome 1 donc, qui fait plus de 500 pages, mais on a aussi sorti récemment donc, deux livres, donc Chabine qui écrit Creuse, raconte l'enfance d'un des personnages qu'on retrouve dans le tome 1, c'est la maman d'un des personnages du tome 1, c'est une guérisseuse qui grandit au milieu de ses abeilles. D'autre part Vesna, une conteuse qu'on suit, donc une voyageuse. Donc ça, ces livres aussi, on peut aborder l'univers par l'un de ces deux livres qui sont beaucoup plus
plus courts,
moins épais, on va dire. Et ça, c'est aussi il se passe soit en même temps chronologiquement du tome 1 ou avant. Ils peuvent s'aborder avant ou après le tome 1. C'est aussi d'autres façons portes d'entrée, d'autres visions en fait de cet univers qui peuvent être aussi intéressants à découvrir même avant tome 1.
Okay. Voilà. De toute façon, c'est très enrichissant cet échange avec vous. On apprend beaucoup de choses. Et là, où est-ce qu'on trouve vos livres? Je sais que vous avez un site internet sur lequel on peut les commander.
Oui, absolument. On a notre site lesenfantsdurequin.fr. Ça, c'est nous. Donc, c'est en direct. Si vous commandez là, c'est nous qui préparons les paquets. On peut vous dédicacer les livres et les envoyer rapidement. On est aussi dans quelques librairies, mais on y va vraiment pas à pas autour de nous. Donc, il y en a dans le 19e arrondissement de Paris.
En fait, on est indépendant, donc c'est pas évident de toucher énormément de librairies. Cherche, on est ouvert à un éditeur pour le tome 2. Ouais. On cherche vraiment un éditeur qui soit vraiment proche de
toutes ses valeurs.
Toutes ses valeurs, en fait. Donc, on cherche de façon très, très ciblée.
Oui. Nous, on espère que cette interview vous aura donné une opportunité, vous aura mis en lumière votre travail et vous aura permis en tout cas d'atteindre le maximum de personnes, de sorte à avoir un éditeur pour bien faire mettre à disposition le tome 2. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est toujours plaisant de vous avoir au téléphone.
Merci beaucoup, un grand merci à vous.
Merci. Voilà. On vous dit à très bientôt et puis bon succès dans vos différentes sorties, vos différents ouvrages.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Merci. Plein de bonnes choses à vous aussi.
Merci beaucoup. Allez, on va faire un break, une pause musicale avec une chanson de Kadim qui était avec nous tout à l'heure et qui est en concert le 3 mai prochain au New Morning. Le titre, c'est Ensa Talebo. À tout à l'heure. Mambéo, mambéo, yo, yo. Mambéo, mambéo.
manuti Claude Mawasaki Bediete ti Claude Mawasaki Bafa e diete mafa tu e clora e maombe oyo eh Satalebo maombe oyo maombe oyo Satalebo Satalebo maombe oyo maombe oyo Satalebo be posani di ke sale li koyo beya be posani di ke sale li koyo bete Bafa e diete mafa tu e clora e maombe oyo Satalebo, maombe oyo, maombe oyo, Satalebo, Satalebo, maombe oyo, maombe oyo, Satalebo. Maombe oyo, yo, isambo sante, le maombe oyo, tigresi donisyon sou maombe oyo, bisa sangbe na maombe.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
On pourrait écouter ses chansons de Kajim, point finir, il en a tellement, des classiques comme ça, il sera en concert. Donc le 3 mai prochain au New Morning, allez-y découvrir cet artiste pour ceux qui ne les connaissent pas et allez redécouvrir Kajim en live, c'est une vraie bête de scène, essayez à voir. Là, notre troisième invité, et c'est pas n'importe qui, qu'on reçoit maintenant, madame, le pasteur. J'enlève mes lunettes pour bien la présenter. Le pasteur. Madame Tacite épouse le pasteur Télia, mère de 5 enfants, agent de transport public, psychologue, clinicienne, voilà, psychothérapeute, championne de France de kickboxing, c'est très important, créatrice et directrice de la société de corps conductrice privée, Cléopâtre Drive Prestige, première dauphine de Miss Maman Île-de-France, auteur de cet ouvrage et invitée dans cette émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait un moment que vous êtes là, les auditeurs ils se demandent, mais ils ont parlé d'une troisième personne, on n'entend pas depuis, est-ce qu'elle est vraiment là ?
Je suis là.
Et pourtant, elle est là. Comment ça va ?
Ça va très bien. Hein,
cette présentation, elle ne dit pas tout. Qu'est-ce que j'ai pas dit ?
Qu'est-ce que tu n'as pas dit ?
Oui.
Que je suis une gourmande de la vie. Je suis une amoureuse de l'amour, une gourmande de la vie.
J'aime bien amoureuse de l'amour. Mm-hmm. Pourquoi amoureuse de l'amour ?
Parce que l'amour, c'est la base de toute créativité. L'amour, c'est la base de tout. Et que pour moi qui ai cette partie très spirituelle importante dans ma vie, l'amour est la base également. L'amour est le premier commandement.
L'information que beaucoup de personnes ont de toi, c'est que tu as été championne kickboxing.
Oui,
et quand on te voit, on a du mal à s'imaginer qu'une femme a fait du sport de haut niveau et ce genre de sport de combat là, jusqu'à devenir championne.
Oui.
Tu nous en parles ?
Alors j'ai commencé à l'âge de 14 ans en Guadeloupe par la boxe thaï. Faut dire qu'avant cette motivation à l'époque. Si tu veux, ce n'était pas forcément... Je n'avais pas pour idée de devenir championne un jour puisque les moyens mis à l'époque là-bas dans ce style de sport comme la boxe n'étaient pas énormes.
C'était donc, pas populaire.
Non, ce n'était pas populaire et encore moins la boxe chez les filles, chez les femmes.
Ouais.
Donc, non, pas du tout. Donc, ce n'était pas dans ce but-là. C'est un sport qui m'a beaucoup parlé parce qu'à l'époque... J'en avais besoin pour pouvoir, on va dire, faire de mon corps une machine.
Elle me brûle les lèvres, cette question. Comment une fille, justement, à cette époque, dans un secteur où cette boxe, ce sport n'est pas du tout populaire, décide de faire du kickboxing ? Déjà, de la boxe, ça interroge, mais du kickboxing, comment t'arrives là ?
Alors, j'ai commencé par la boxe thaï.
Ah oui.
J'ai commencé par
comment
la boxe thaï.
Comment tu décides de faire le sport de combat ?
Alors, le sport de combat c'était après la ligne de troisième où nous étions partis en Alsace. Nous avions quitté la Guadeloupe pour l'Alsace. Donc, juste pour un an. Mes parents étaient partis faire des études en Alsace pour un an. Et ma mère, qui était secrétaire de rédaction dans un journal en Guadeloupe, continuait à recevoir ce journal en Alsace. Mmh. Et avec la recrudescence de la violence, voyant la recrudescence de la violence, elle nous a dit, bon, mais ce serait bien qu'au retour, vous fassiez un sport pour pouvoir vous défendre. Mais elle voyait plus du self-défense, du judo, enfin des choses un petit peu très passives, enfin un peu plus
douces. Et toi,
douce.
T'as eu un coup de cœur.
Et en fait, ce sport m'a vraiment parlé au retour en Guadeloupe. Donc du coup, la boxe thaï m'a parlé tout de suite. Surtout quand j'ai vu ce que ça demandait comme discipline et comme j'ai reconnu dans ce sport comme dureté. En fait, j'ai reconnu dans ce sport le moyen pour moi de venir combattre une autre dureté que je connaissais dans ma vie privée. Dans
une
ma
rigueur
vie,
qui était importante
jours.
Pour toi, non, la rigueur.
La rigueur, mais encore pire, je dirais plus physiquement, la dureté. C'est-à-dire que j'avais décidé par ce sport de faire de mon corps une arme.
Ah oui.
Et de faire de mon corps une arme, mais une armure.
Chapeau à monsieur le pasteur, hein, il entend ça et il a vu ça quand même, il n'a pas eu peur de l'arme.
Non, parce que quand monsieur le pasteur arrive dans ma vie, je n'ai plus besoin de faire de mon corps une armure.
Ah oui, il a adouci tout ça.
Voilà. Je n'ai plus la même histoire. Mon histoire d'enfance fait que j'avais besoin de faire de mon corps à ce moment-là une armure pour pouvoir...
Et ça t'a aidé?
Oui, oui, énormément.
Est-ce que c'est ce qui te booste à devenir cet entrepreneur que tu es aujourd'hui?
Alors, on va dire que ce qui m'a boosté dans ma carrière de boxe est ce qui est mon fond. Donc, c'est ce sur quoi je me suis construite. C'est ce fond qu'il y a en moi qui est ce qui me détermine et ce qui me rend déterminante, oui.
Comment tu deviens entrepreneur, au final? Quand on passe, on fait du boxe thaï, de la boxe thaï, on fait kickboxing, après on décide de devenir entrepreneur. C'est pas des choix que tu as décidé immédiatement.
Non.
Je pense que tu as rencontré des situations dans la vie qui t'ont poussé à orienter dessus.
C'est
comment ça arrive?
Toute pratique, toute activité qui s'est présentée à moi, parce que je dis qu'elles se sont présentées à moi, découle d'une épreuve. Pareil, entrepreneur, ma société est née d'une épreuve. J'ai dû payer les études de médecine de ma première fille. Je vivais seule avec mes quatre filles. J'ai élevé mes quatre filles seules. Donc, mon aîné voulait faire des études de médecine. On sait très bien comment en France, le parcours d'études de médecine est compliqué. Le concours de la première année est compliqué. Donc, j'ai voulu lui payer une prépa de médecine pour lui donner plus de chances de réussir. Mais comment le faire quand on est mère de quatre enfants avec sa simple fiche de paye RATP et sans changer le quotidien de la famille? C'est-à-dire sans que les sœurs plus tard n'aient à reprocher à leur grande sœur, écoute, à cause de toi, on a dû se priver des colonies, on a dû se priver des voyages, parce que j'avais mis un certain style de vie à mes enfants, pour mes enfants et moi, et je ne voulais pas que tout ça vienne, on va dire, chouboulée, entre guillemets, un peu bouleverser un peu tout ça. Donc la question qui s'est posée, c'est comment payer cette prépa de médecine de 5000 euros à ma fille sans changer le fonctionnement de la maison. Ça a été, ben, du coup, après mes journées, mes longues journées RATP, du coup, de 7h15, rentrer, m'occuper de mes enfants, m'occuper des devoirs, leur donner à dîner, les border, faire ma mère venir dormir avec elle et moi repartir avec mon 4x4 sur la route.
Mais en fait,
toute la nuit.
Des personnes à ta place te diraient, bah, écoute, moi je vais faire plusieurs boulots, mais toi tu décides d'être entrepreneur.
Non, d'abord c'est un boulot.
Tu fais un boulot.
C'est-à-dire que j'enchaîne la nuit après en application pour pouvoir payer cette prépa de médecine.
Okay.
Et c'est en acceptant, comme je dis, chaque fois qu'on accepte une épreuve, c'est en acceptant cette épreuve que naît cette idée. Pourquoi?
Oui.
Parce que naît cette idée, qu'est-ce que je vois? Je vois que les gens sont super contents de voir que je suis une femme. Quand ils voient le chauffeur, le conducteur qui vient les chercher, c'est une femme, ils sont contents. Quand ils voient ma belle voiture, donc mon 4x4 à l'époque, ils sont contents. Donc naît cette idée de associer femme, belle voiture, y ajouter ma touche qui aime recevoir, c'est-à-dire avec les plateaux, dans les véhicules, et naît cette idée d'entreprise, donc de Cléopâtre Drive Prestige.
C'est bien.
Comme ça que naît ça avec
et là du coup tu as trouvé ta voie.
Alors je suis tu sais, une voie, moi je dis qu'on a toute une vie pour faire. Je ne me cantonne pas aux choses, parce que depuis que j'ai fait cette entreprise, énormément d'autres choses sont nées à côté. Au bout de 2 ans, nous avons été récompensés avec le trophée des entrepreneurs afro-créoles innovation et société. Depuis ce trophée est né un autre bébé, donc avec mon mari, un bébé qui est le salon des entrepreneurs au début.
Dont
salon,
on parlera tout
voilà,
à l'heure.
Voilà, exactement. Donc tu sais, avec cette entreprise sont nées encore d'autres ramifications.
Donc la première entreprise,
derrière.
C'est déjà Cléopâtre Drive Prestige,
oui,
que tu crées.
C'est ça.
Et finalement, ça t'ouvre l'esprit sur d'autres possibilités. Tu te dis qu'il y a d'autres possibilités.
Ben, il y a d'autres choses. Surtout qu'à côté de ça, je suis aussi... Parce qu'il faut savoir que pendant que je suis à la RATP, j'ai aussi passé ayant eu ma première fille très tôt, j'ai dû arrêter l'école et je suis retournée en étant à la RATP, passé mon bac, 3 années de licence, 2 années de master. Donc je suis aussi devenue psychologue clinicienne, psychothérapeute. Et donc il y a aussi cette casquette que j'ai aussi, donc de psychologue clinicienne, psychothérapeute. Et d'où j'ai fait également, j'ai créé un projet avec Léopard Drive Prestige qui sont les traversées thérapeutiques. C'est-à-dire le concept, c'est de profiter d'un trajet que tu ferais de toutes les façons, boulot, maison, pouvoir déposer ce que tu as déposé avec le thérapeute dans le véhicule et descendre du véhicule plus léger, plus légère.
Il y a beaucoup de choses à savoir de toi.
Exactement.
On a encore quelques temps pour en discuter.
Oui.
On parlera tout à l'heure du Salon des entrepreneurs qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On pourra en discuter des prochaines éditions et des autres entreprises que tu as. Oui. Je propose qu'on fasse une pause musicale.
Ça marche.
Avec une chanson encore de Kajim qui sera en concert le 3 mai prochain au New Morning. Le titre de la chanson, c'est Yunuman. C'est extrait de son dernier album sorti en 2023. Voilà. On se retrouve tout à l'heure, chers auditeurs. À tout de suite.
Mon Afro Paris, c'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur mon Paris FM. Mon Afro Paris, c'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur mon Paris FM.
De retour en studio dans cette émission, toujours en compagnie de Télia, qui nous parle de son parcours, de ses entreprises, de ses projets. Justement, parlons de ce salon. Dernièrement, il y a eu ce salon-là, le salon de l'entrepreneur. C'est quoi l'histoire de ce salon ?
Alors, le salon des entrepreneurs est né du trophée des entrepreneurs afro-créoles que l'UNOM m'avait décerné par rapport à mon entreprise Cléopâtre Drive Prestige, Innovation et Société. Donc, j'avais été récompensée pour cela. En entrant, mon mari me dit, mais tu vois, c'est formidable parce que toi maintenant, tu es mise en lumière par les médias, c'est très bien, mais il y a énormément de personnes de notre communauté, d'entrepreneurs de notre communauté qui font de belles choses et qui pourtant restent dans l'ombre comme tu l'étais au début. Ce serait bien de créer un événement pour cela. Donc du coup, comme la Bible dit, hein, l'homme sème la graine et la femme vertueuse en fait des trésors. Et donc il a déposé cette idée, et trois jours après, donc du coup je suis revenue le voir en lui disant, mais écoute, tu sais ce dont tu m'avais parlé, ce sera le salon des entrepreneurs, ça va se passer à tel endroit, ce sera tel jour, de telle heure à telle heure, ça va coûter tant, on va payer ça de cette façon, voilà. Et en fait, j'avais mis en place son idée.
C'est quoi le concept, le salon de l'entrepreneur, c'est quoi le concept ?
Alors le salon des entrepreneurs, c'est de mettre en lumière tout le savoir-faire et le savoir-être de nos entrepreneurs, en fait. De montrer comment cette créativité que l'on a et aussi ce professionnalisme que l'on a. Parce que très souvent, tout à l'heure, le chanteur Kadim qui était là a dit quelque chose qui a vraiment fait résonance en moi, parce que c'est ma pensée. On veut souvent nous faire nous noirs, donc sans stéréotypes, sans quoi que ce soit, mais nous noirs passer pour plus l'amusement que pour des choses profondes, alors que de la profondeur on en a énormément.
C'est très bien. Et c'était la quelle édition dernièrement?
C'était la troisième édition.
T'en ressors avec quoi? Qu'est-ce que t'en retiens?
Alors
le bilan que tu fais.
Alors, le bilan qu'on en fait, c'est toujours pareil. Donc, l'organisation tip-top, vraiment des entrepreneurs, toujours avec un éventail de savoir-faire, de créativité, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais mon mari et moi, à chaque édition, nous retenons des petits, on va dire, des petits arrangements à apporter pour pouvoir toujours faire mieux. Parce que nous sommes plus dans une dynamique de l'excellence, de la perfection, exactement. Donc à chaque fois, si tu veux, le salon, globalement, était génial. Mais nous, ce qu'on va aller chercher, c'est les petits détails qui font que la prochaine fois, ce sera une espèce de valeur ajoutée supplémentaire.
Et qui participe? Comment vous faites la sélection des entrepreneurs qui viennent participer à ce salon-là?
Alors, il y a de tout. Alors, il faut savoir que j'ai créé un groupe, une communauté qui s'appelle Bosspreneur, entre la Guadeloupe, la Martinique, le Saint-Martin, le continent africain, la Suisse, Londres et la France. Donc ce groupe Bosspreneur, qui est un groupe de réseautage plus, donc sur WhatsApp. Donc des entrepreneurs du Salon des Entrepreneurs sont, du coup, appartiennent à cette communauté, donc d'entrepreneurs, Bosspreneur. Et ensuite, j'ai mon mari qui tout le temps sur les réseaux, donc sur Instagram ou autre, répertorie plusieurs entrepreneurs, recherche différents entrepreneurs en fonction des milieux, des domaines qu'il nous manque, parce qu'on veut vraiment de la diversité. Et donc du coup, on fait ça comme ça aussi, ou des groupes d'entrepreneurs sous lesquels je suis du continent africain.
Au-delà de ça, en fait, tu as créé une entreprise, Cléopâtre Drive, justement, de taxi. Et tu as créé aussi une autre entreprise qui met en place le salon des entrepreneurs. Et là, tu es aussi auteur.
Oui, alors
Comment tu fais pour faire tout ça? Tu es une magicienne.
Comme j'ai dit, non, je ne suis pas une magicienne. Je dirais plutôt que je suis une croyante. Je suis une croyante. Et le fait d'être croyante fait que, comme je disais, derrière chaque épreuve, je vais voir une possibilité, une opportunité de création.
Et ce livre-là que tu as sorti, c'est ton premier ?
C'est mon premier livre, oui.
Au nom du Père ?
Oui, au nom du Père.
Il parle de toi ?
Oui, c'est mon histoire. Oui, c'est mon histoire.
Tu veux nous en parler ?
Au nom du Père, c'est un double jeu de mots. Donc, au nom du fait que je sois la fille de mon père. J'ai eu un certain vécu et tout a changé au moment où j'ai switché mon père terrestre contre mon père céleste. Donc à partir, faut savoir que j'ai été élevée par mon père qui est athée. Donc je n'ai pas été élevée avec
dans la spiritualité comme Kadim tout à l'heure.
Non, pas du tout. Je n'ai pas été élevée dans la spiritualité. C'est quelque chose que je suis allée chercher moi-même. Mais j'avais quand même des petites bribes.
Parce que tu as vécu des traumatismes.
En moi, j'avais quand même des petites bribes de spiritualité déposées en moi, ouais. Parce que je voyais ma grand-mère, ma défunte grand-mère, qui était très croyante et dont j'étais très très proche. Donc je voyais quand même certaines choses, certains. Je voyais son amour pour Dieu de ma grand-mère. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon du père raconte mon histoire, mon enfance, qui a été une enfance, on va dire dure, dans le sens où, on va dire déséquilibrée. Déséquilibré dans le sens où un enfant a besoin d'un certain équilibre pour pouvoir se construire, construire son être et construire son amour de soi. Et on va dire que ça a été déséquilibré dans le sens où j'avais la correction, j'avais même un surplus de correction et je n'avais pas de l'autre côté l'expression de l'amour. Okay. Donc du coup, c'est pour ça que j'appellerais cette enfance déséquilibrée. En fait, elle n'avait pas l'équilibre qu'il faut. Et à côté de ça, ma mère, à l'époque, parce que ça a bien changé depuis, était présente physiquement, mais absente dans les faits, absente dans la réaction, dans la réactivité, dans la protection et voilà.
Est-ce qu'on peut dire que c'est cette enfance douloureuse qui t'a poussé à aller justement faire du kickboxing ?
Alors cette enfance douloureuse, oui. Arrivée à l'âge, j'ai commencé le kickboxing à l'âge de 14 ans. En fait, j'avais pris pour pari avec moi-même que j'allais endurcir mon corps. Donc je m'amusais à faire des choses, à transformer mon corps, mais vraiment à pousser vraiment le sport, mais vraiment au paroxysme pour pouvoir faire en sorte, mon pari était de regarder droit mon père dans les yeux sans pleurer et d'accuser les coups sans réagir.
Prendre ta revanche.
Voilà.
Et sortir de là.
Ça. Voilà. Donc voilà.
C'est un livre qui est disponible, on peut le trouver où ?
Mais c'est aussi un livre qui, c'est très important. Je parle de certaines scènes pour vraiment montrer comment quand on est écorché vif, quand on peut avoir été écorché vif, comment on peut quand même s'en sortir. Mm-hmm. C'est pas un livre qui est fait pour pleurnicher, en fait, parce que moi je n'aime pas ça, je n'aime pas pleurnicher. Ce n'est pas un livre non plus qui est fait pour accuser mon père, parce que lui-même, comme je dis dans le livre, a fait avec ses propres mots à lui, et donc n'est pas non plus, a fait avec ce qu'il pouvait, comme il pouvait. Voilà. Et donc du coup, dans le livre, il n'y a aucune rancune, il n'y a aucune accusation.
Il ne faut pas rester sur sa douleur.
Voilà, je parle simplement, je parle sur les faits. Et d'ailleurs, je ne m'éternise pas. Je passe sur certaines scènes pour montrer que y a une vie après. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on a vécu, et quelquefois après, parce que dans l'histoire, au début, d'accord, mon père fait, mais dans l'histoire, moi aussi, je fais à un certain moment. Mm-hmm. À un certain moment, moi aussi, je fais partie du banditisme. Moi aussi, je fais des choses pas très, pas très catholiques.
Tu fais des choix qui sont pas...
Je fais des choix, donc notamment des choix de la rue, des choix de, voilà, des choix de l'illégalité. Et tout ça au nom d'une rébellion, mais une rébellion vraiment contre tout. Voilà, et une rébellion même contre l'amour, puisque j'ai été élevée en sachant que l'amour n'existe pas, que l'amour n'existe pas et que ce n'est qu'un arrangement entre des personnes pour répondre à ses simples besoins à certains moments. Donc du coup, à un moment, je prends ça comme ligne directive, et c'est pour ça que je dis après au nom du Père, donc... en référence à la prière au nom du Père, mais ça tombait bien avec le jeu de mots au nom du Père, au nom du fait que je sois la fille de mon Père. Quand je switch mon Père terrestre contre mon Père céleste, ben là j'apprends l'amour et là je mets en moi cet amour et j'apprends à m'aimer et donc tout s'ouvre, les portes s'ouvrent et ça donne toute la créativité d'après. J'ouvre des entreprises, j'ai mes titres de boxe, mm-hmm. alors que j'en avais pas eu avant tout ça. Donc, j'ai mes titres de boxe alors que j'ai déjà mes enfants.
Mm-hmm.
Donc, tu vois, c'est vraiment pour montrer ce livre-là. C'est vraiment pour montrer. C'est pour donner, venir encourager. Et c'est pour ça qu'il n'est pas trop gros non plus. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, quand j'étais dans la rue, je n'avais pas ce goût pour la lecture comme je l'ai aujourd'hui. Je ne mangeais pas des livres comme j'aime manger des livres aujourd'hui. C'est pour venir toucher. Alors, c'est pour tout le monde. Mais moi, ce que je vise, c'est un ou une télia de mes moments down. Donc, soit une télia ou un télia qui se sent maltraité, mm-hmm. soit un ou une télia qui maltraite les autres, mm-hmm. soit un ou une télia qui est maman solo, soit un ou une télia qui est jeune maman, comme je l'ai été. En fait, dans ma vie, j'ai passé plusieurs, on va dire,
on a plusieurs vies.
Voilà.
Tu as eu plusieurs rôles et plusieurs personnalités dans ta vie.
Voilà. Ça peut venir toucher énormément de monde. Et je veux leur montrer que même si tu es ça aujourd'hui, ça ne prédestine en rien ce que tu seras demain. Alors lève-toi, accroche-toi à ce en quoi tu crois, crois en toi. Et avance sans jamais te retourner sur le passé.
C'est un très très bon message, voilà. Ça, Tilia. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas fini cet entretien. Je voulais ce soir souhaiter un joyeux anniversaire à Fatih qui est pas avec nous ce soir. C'est son anniversaire. Et justement, elle aime bien le chanteur ivoirien Imra qui a fait un featuring avec la chanteuse Bambi. Une très belle chanson du titre Gangsta. Lui dédier cette chanson-là pour son anniversaire. À tout à l'heure.
Yeah, hey, j'suis un Jose, gangsta, Siri dem, cash dem, machette, une fois Bambi, on va s'en chiqueter, bad girl.
Fuck, la bad girl est fâchée, il me faut les sous avant d'arrêter.
Cash dem,
fuck, le bad boy est fâché,
Siri dem,
il me faut les sous avant d'arrêter.
Cash girl, pussy boy sort de mon wa, toi, t'as mes commandes what, à l'aise comme tout mal et oui, entouré que de gros gars t'es mal et oui.
She on jet lag, touchdown to Bobby sans visa. Yeah, yeah, yeah. Think I think we a pull up again. African queen, me a shut down again. Yeah. Toujours en une fois, money again. Mon bot choc, il est en ding ding ding.
Africa del Sol, un chat à waler. J'arrive en XL, donc ça va pas t'aller. Je suis comme Bob Marley, Soukali. Elle dit I love you, you dit chop my money. Je suis un Jose, gangsta. Siri dem, cash dem. Machette, une fois. On va s'en chiqueter, bad girl.
Fuck, la bad girl est fâchée. Il me faut les sous avant d'arrêter.
Cash them.
Fuck, le bad boy est fâché.
Siri dem.
Il me faut les sous avant d'arrêter.
Cash them. Yeah, yeah. On va allumer maintenant. Yeah, yeah. J'ai tous les côtés du ghetto. Et qui va me faire béton? Méchant garçon. Évite détecteur métaux.
Et ça m'anime quand je sais que ça n'ira nulle part. La mélodie fait. La mélodie fait.
J'suis un Jose, gangsta. Siri dem, cash dem. Machette, une fois Bambi. On va s'en chiqueter, bad girl.
Fuck, la bad girl est fâchée. Il me faut les sous avant d'arrêter.
Cash dem.
Fuck, le bad boy est fâché.
Siri dem.
Il me faut les sous avant d'arrêter.
Cash them, Siri them, cash them, Siri them, Siri them.
Mon Afro Paris, c'est tous les vendredis de 19h à 20h30 sur mon Paris FM.
Et oui, c'était Bambi et Imra, une très belle chanson hein, qui vient de sortir. Tu me disais que tu connais bien Bambi, toi.
Oui.
T'écoutes quoi comme musique?
Alors, j'écoute de tout. J'écoute de tout. Il faut juste que le son parle à mon cœur. J'écoute de tout.
Toi, t'es vraiment très spirituel.
Ouais.
Faut que ça te parle.
Faut que ça me parle. Faut que les paroles me parlent. Et après, tu sais, il y a beaucoup de sons aussi que je vais écouter parce que mes enfants les écoutent.
Ah
donc,
oui.
Pour partager des moments avec mes enfants. Voilà. Mais personnellement, j'aime beaucoup les sons à texte.
Je connais ça. Alors, on a connu, là, on a parlé de Tilia, la fondatrice de Cléopâtre Drive, mm-hmm. Prestige.
Mm-hmm.
On a parlé de l'auteur. Et je pense que tu as d'autres entreprises. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce qui manque?
Alors, par exemple, j'ai créé Cléopâtre Drive Cléopâtre Camp. donc qui découle de Cléopâtre Drive Prestige. C'est en fait, ce sont des regroupements de femmes, deux fois par mois, où j'associe ma casquette de psychologue clinicienne et de championne de kickboxing. Donc du coup, nous faisons du sport ensemble, nous faisons une bonne séance de sport, de boxe. Je leur apprends à faire de la boxe.
Le bien-être, quoi.
C'est ça, avec une table, avec des fruits secs, des petites bouteilles d'eau. Et à la fin de cette séance sportive, donc physique, il y a une partie psychique. C'est-à-dire qu'elles sont détendues, je les booste, je les gonfle de paroles bien boostantes, motivantes, qui leur donnent envie, en fait, de se dépasser dans la vie de tous les jours. Dans leur vie de mère, dans leur vie de femme, dans leur vie de sociale. Et au terme de cette séance physique et psychique, il y a des masseurs et des masseuses qui viennent sur place pour les masser afin qu'elles retournent ensuite dans leur quotidien.
C'est très bien ça.
Oui.
Tu te soucies du bien-être des autres femmes et tout, c'est super bien.
Tout est fait, en fait, si tu veux. De toute manière, je pense que rien n'est au hasard. Si j'ai eu mon histoire, si j'ai eu à vivre des choses, si j'ai eu à faire moi-même vivre des choses, c'est pour plus tard, une fois que j'ai fait le bon choix, le choix du bien, c'est, Dieu se sert de tout ça pour pouvoir, de toutes ces capacités que tu as, ces caractères que tu as, ces traits de caractère que tu as, pour sa mission à lui. Donc ça veut dire que maintenant, en fait, tout ce que je fais est dans le sens de l'aide aux autres. Le salon des entrepreneurs que je fais avec mon mari, c'est on aide les autres entrepreneurs à se faire voir et à se motiver parce que ça les motive en fait, qu'on les amène, qu'on les regroupe en un lieu, qu'on les amène au business et tout. En attendant, il faut voir aussi qu'il y a un show pendant ce salon des entrepreneurs, donc un show d'artistes, un show de danseurs, un show de... Donc ce sont aussi des artistes qu'on motive aussi, qu'on met en lumière également. Y a la presse à ces moments-là aussi sur place. Donc, du coup, tous ces artistes, ces entrepreneurs, ben, on parle d'eux dans la presse ensuite. Le groupe Bosspreneur que j'ai mis en place, la communauté, c'est pour également motiver, réseauter pour que.
Il y a ce besoin-là de faire les choses pour les autres.
Exactement.
Les mettre bien.
C'est exactement ça. Exactement.
Écoute, nous on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir dans cette émission et parler avec toi de ton parcours. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire,
oui,
mais même
non,
une heure
non,
ne suffirait
non,
pas
oui,
et tout. Mais on retient, qu'est-ce qu'on doit retenir de toi, de Télia?
Alors, ce qu'on doit retenir de moi, ben, c'est une femme déterminée, déterminante, qui ne lâchera pas l'affaire.
Il ne faut pas l'avoir sur son dos. Merci d'être venu dans l'émission.
Quand je dis ne lâchera pas l'affaire, c'est ne lâchera pas l'affaire de la vie.
Voilà.
Et donc l'affaire de Dieu.
Qui est très combative.
Est de Dieu.
Voilà. Et qui est très spirituelle, très combative et qui aime créer des choses pour le bien-être de tous. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais.
Ben, merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Quand je dis vous, c'est toi, l'équipe. Merci vraiment, même à ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas.
Oui.
Merci à tout le monde. Merci encore à mon mari de m'avoir suivi encore sur le plateau. Et voilà quoi, merci à tout le monde.
Merci chers auditeurs. La réalisation, c'est Léo qui nous a accompagnés depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très 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 bon week-end. J'aimerais faire un coup de cœur à toute la communauté congolaise avec le concert qui a eu lieu hier, Solidarité Congo, qui a eu lieu il y a quelques jours pour ramasser des fonds, pour aider justement dans l'Est du Congo où il y a des... Il y a vraiment beaucoup de souffrance en ce moment. En tout cas, c'était une très, très belle initiative, justement. C'est pour ça que je consécoute cette chanson de Fally Ipupa, son dernier titre. Et pour terminer cette émission, le titre, c'est Mayonga. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bon week-end.
Au revoir.
Vous suivez Mon Afro Paris sur Mon Paris FM.
Femme africaine,
yes.
Mama ya ba na yo deboli mwa papa. Atana liputa flisko na soukia maboko. Mon amour, kitoko, prestance, charisme, la classe, élégance. Yeah. Mieux que toi n'existe pas, baby.
Non.
Shout out to all African queens. Salami palé, car tu le mérites, mama. Daloula yo na mogo. Le même jour na pantalon. Je suis
ataki liputa visko na kweaki mayanga na kweaki mayanga na kwe mayanga na kwe mayanga na kwe mayanga na kwe mayanga mutwashi kamali puta tobi malinga tuleka mutwashi Salami.